Vous avez travaillé notamment au Figaro et à Psychologie Magazine, et parmi tous les sujets que peut couvrir votre métier, vous avez choisi de vous intéresser plus particulièrement à la psychologie. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
Oui, parce que la psychologie m'a sauvé la vie, en gros, je peux le dire. J'avais plusieurs choix au début de ma carrière de jeune journaliste. Et puis, des événements personnels ont fait qu'à l'âge de 28 ans, j'ai été contrainte de faire une thérapie, de rentrer dans une thérapie de groupe. C'était un groupe d'entraide. Je ne connaissais alors rien à la psychologie, j'étais une littéraire. Qui avait fait des études de communication au CELSA. Et malgré mes bons résultats, malgré beaucoup de choses, j'étais entravée par des angoisses, des difficultés relationnelles, etc. Et j'ai donc connu un groupe d'entraide qui était centré autour des addictions. Et cette expérience m'a complètement changée. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, « Et tu verras la vie autrement ». C'est-à-dire que la manière dont je conçois la psychologie et la psychothérapie, qui est le versant clinique de cette science humaine, c'est vraiment comme un agent transformateur et comme une possibilité inégalée, quoi. Je pense, encore aujourd'hui, à l'heure où elle est critiquée, on pourra en parler ensemble, qu'elle reste un refuge inégalé pour mieux se connaître, savoir pourquoi on zappe des choses, savoir pourquoi on rate des choses, savoir pourquoi on ne veut pas réussir d'autres choses. Et voilà, et du coup, on était dans les années 80, disons-le, et j'ai commencé à proposer des sujets, parce qu'en même temps, il y avait cette psychothérapie américaine qui venait d'être traduite en France, qui arrivait à travers des livres. J'ai proposé à mes rédacteurs-chefs de plus en plus de sujets lié à la psychologie et à la psychothérapie. Alors ça allait du début des soins palliatifs à comment le rire nous aide à vivre mieux, à des choses comme ça. Je travaillais à France Inter à l'époque et on me regardait d'un œil un peu étonné en me disant systématiquement « Bon, ok, tu fais un sujet psycho, mais drôle ». C'était la commande du rédacteur-chef, c'était surtout tu ne plombes pas avec les difficultés avec les parents, des trucs comme ça. Et petit à petit, je participais à une émission qui s'appelait Le Bouillon de 11h, qui était une des premières émissions où on pouvait faire des petits reportages à SOS Amitié, ou bien voilà, dans des lieux où la psychologie était importante. Petit à petit, ces sujets sont arrivés, ont été de plus en plus demandés par les auditeurs, par les lecteurs dans les maisons d'édition, etc. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de rentrer à Psychologie Magazine, qui a vraiment emporté ce mouvement du succès de la psychologie populaire. C'était il y a 25 ans. À l'époque, il n'y avait pas de sujet psychologie dans les grands médias. C'était vraiment Psychologie Magazine qui tenait le marché, j'allais dire. Et puis, j'imagine que si vous êtes là, que vous vous intéressez à la psychologie, vous savez maintenant que depuis 10 ans, c'est devenu des sujets mainstream, abondamment abordés partout, de manière parfois pas très approfondie, un peu légère. Mais voilà, cette psychologie... Alors, on me demande souvent, êtes-vous psychologue ? Et là, je réponds non, je ne suis pas psychologue, mais je suis patiente. C'est-à-dire qu'effectivement, après cette expérience, j'ai eu l'occasion... dans des moments de crise, de refaire des petites tranches, comme on dit. J'ai fait une psychanalyse pendant 7 ans. Bon, voilà, donc je me considère comme une patiente. Et c'est pour ça que dans mes papiers, j'essaye toujours d'interviewer des psys d'écoles différentes. C'est-à-dire, j'ai toujours interviewé des psychanalystes, des psychologues humanistes, des neuropsychiatres. Je ne voulais pas qu'il n'y ait qu'un son de cloche. Parce que je pense en plus qu'il n'y a pas qu'un son de cloche pour soigner, que le psychisme est vraiment tellement mystérieux, tellement complexe et tellement singulier, que c'est un peu facile de dire « moi j'ai la recette pour vous ». D'ailleurs, je me méfie toujours des psys qui ont la recette En général. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question.
Tout à fait. Votre livre, c'est 100 articles, du coup, que vous avez choisi. Pourquoi avoir décidé, du coup, d'écrire ce livre, hein, de rassembler ces articles, et comment vous l'avez un peu organisé, en fait, parce que bon, je l'ai parcouru, du coup, et c'est vrai qu'on passe assez facilement d'un sujet à l'autre. Vous revenez par moments sur des sujets avec un œil un peu différent, une façon d'aborder différemment. On retrouve du coup un petit peu, mais du coup c'est vrai que c'est pas organisé par thème. Hein. C'est vraiment des articles au fil de l'eau. Donc, voilà, quelle est la genèse de ce livre et pourquoi ce choix d'écriture?
Alors ça arrivait à un moment de fin de cycle, puisque ça faisait 10 ans que je tenais cette page hebdomadaire. Je dois dire que dans la presse française, Le Figaro a eu cette intelligence. Enfin, c'était Étienne Moujotte à l'époque qui était directeur. Il a eu l'intelligence de créer une page hebdomadaire, donc régulière, ce qui n'existe pas dans les autres quotidiens. Il y a des articles de temps en temps, de manière aléatoire, mais lui voulait vraiment un rendez-vous régulier. Et je pense qu'il a eu raison, parce que ça a eu beaucoup de succès, énormément beaucoup de succès sur Internet. Où vraiment, là, les lecteurs ont afflué. Donc, ça correspondait à un cycle, 10 ans de chroniques, 400 chroniques, et les éditions Larousse sont venues nous chercher, et nous ont dit, écoutez, il y a quand même matière, j'avais une éditrice qui lisait ma page tous les lundis, qui m'a dit qu'il y a quand même matière à faire un livre. Donc, j'ai eu la difficile tâche de choisir 100 chroniques, sur 10 ans, j'ai pris vraiment dans toutes les années, mais j'ai cherché à montrer l'évolution des grands thèmes montants. Et effectivement, bon, vous parlez de certains thèmes qu'on retrouve, je pense, par exemple, il y a 2 ou 3 papiers autour du temps, de notre gestion du temps, qui est un problème. C'est vrai que le papier que j'ai écrit au début des années 2010 est différent de celui que j'ai fait en 2018. Mais j'ai vraiment cherché à chaque fois à montrer les évolutions et les découvertes. Parce que quand même, ce qui s'est passé en 10 ans, c'est l'arrivée massive des neurosciences, du regard scientifique sur le psychisme. Et ça, je ne sors pas les tambours et les roulements de tambour, parce que je pense que les neuroscientifiques ne font que confirmer ce que les cliniciens avaient vu. Mais voilà, ça a été une des évolutions majeures. Je voulais que le lecteur puisse rentrer à n'importe quel endroit. S'il s'intéresse au couple, qu'il lise les quelques chapitres sur le couple. Les chapitres sont courts et voilà, ça a été un choix assez facile finalement. Okay.
Alors maintenant, on va rentrer dans le vif de plusieurs sujets qui nous concernent donc tous plus directement au printemps de l'optimisme. Le premier, c'est le développement personnel. C'est un sujet qu'on retrouve aussi de plus en plus présent un peu partout. Comment vous analysez, alors j'ai plusieurs questions du coup, après je vous laisserai. Comment vous analysez l'engouement actuel pour cette quête en fait, où il y a une vraie volonté aujourd'hui de se retrouver, de savoir qui on est, etc. Et d'être accompagné aussi pour mieux aborder la vie et de la vivre avec plus d'intensité, plus de sens, plus de bonheur. En quoi vous semble-t-il essentiel de se connaître soi-même? C'est plusieurs sujets, enfin vous en parlez aussi. Et que pensez-vous de l'émergence d'un nouveau métier, du coup, qui est le coaching, hein, parce que on en parlait tout à l'heure, c'est un sujet aussi qui nous intéresse, puisque nous, on a régulièrement en fait des coachs qui participent à nos événements. Et dernière question par rapport à tout ce thème, c'est en quoi vous pensez que le coach peut aider différemment d'un psychologue ou d'un psychiatre? Comment il complète, en fait, cet accompagnement?
Bon, alors c'est un gros morceau, parce que dans la psychologie populaire, le développement personnel a pris une place immense. Et les gens, beaucoup de gens confondent, on peut être amené à confondre. Le développement personnel, je l'ai découvert dans les années 1992 à travers une journaliste américaine qui s'appelle Gloria Steinem et qui a vraiment provoqué un gap dans la pensée psychologique américaine. Elle s'occupait des féministes, elle s'occupait des femmes précaires et un jour elle a écrit: malgré tous les combats qu'on mène, malgré toutes les possibilités qu'on offre à ces femmes, on n'arrive à rien parce qu'elles n'ont pas d'estime d'elles-mêmes. Et que tant qu'on ne les aidera pas à travailler elles-mêmes sur leur estime d'elles-mêmes, tout ce qu'on fera politiquement ne marchera pas. Et ça a été, j'ai lu ce livre, ça s'appelait La Révolution intérieure, et c'est là que j'ai entendu parler des self-help movements, ce qui veut dire s'aider soi-même. C'est-à-dire les Français ont traduit par développement personnel, mais ça n'a rien à voir. Le self-help, c'est s'aider soi-même, trouver des possibilités de s'améliorer, de s'en sortir, etc., de manière autonome. Alors, je vois aujourd'hui, sous le nom de développement personnel, des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec ça, qui sont plutôt une inflation de l'ego, un retour à soi fermé. Il faut dire que si c'est né dans les groupes d'entraide, c'est parce que c'était des possibilités de lien entre ces femmes qui permettaient ce développement personnel. Voilà, ça c'est une aparté. Pourquoi aujourd'hui, mais je pense que parce que ça s'est marchandisé, parce que c'est devenu une économie, et que ce qui était au départ un formidable outil d'autonomie, de réalisation de soi et de sortie de l'impuissance, parce que quand même, si vous écoutez les infos toute la journée, enfin ça va être banal ce que je vous dis, si vous lisez ce que vous lisez et si vous voyez ce que vous voyez, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de s'en sortir, quoi. Ou alors, elles sont vraiment familiales et donc vous retombez dans peut-être d'autres normes. Elles sont culturelles, voire communautaristes, et vous tombez dans d'autres normes. Et au milieu de ça, il y a le développement personnel qui permet à chacun, quelle que soit son histoire, quel que soit son milieu d'origine, de sortir de son sentiment d'impuissance et de changer des choses. Voilà. Plus le monde est chaotique, plus les gens vont y avoir recours. Ce qui se passe maintenant, et qui est un peu regrettable, c'est qu'au fond, cette marchandisation, cette industrie du développement personnel l'a diluée. C'est-à-dire, par exemple, dans les bouquins de développement personnel, bon, vous avez le premier bouquin de psychologie positive de Seligman qui contient sa pensée, sa théorie, ses recherches. Et puis, ils vont suivre 400 bouquins autour de la psychologie positive qui ne vont faire que reprendre ce qu'il a dit. Et les gens vont avoir l'impression de tourner en rond, de ne pas avancer, parce qu'ils vont relire sous une forme de tisane un peu délayée ce qui était le sel de la pensée des premiers auteurs. Voilà. Et du coup, ça donne une image édulcorée du développement personnel, qui en fait est très puissant, qui vous donne des outils absolument extraordinaires. Je veux dire, vivre le moment présent, être présent à ce qu'on vit au présent, c'est quand même une clé de mieux-être incroyable. Y en a beaucoup comme ça, chercher à établir des liens authentiques avec les autres, sans les envahir, enfin... Bon, après, on ne va pas rentrer dans toutes les clés. Alors, le développement, vous me demandiez les coachs, la différence entre le coaching et la psychologie. Je crois que le coaching, ben, vraiment, c'est un accompagnement au changement. C'est-à-dire que vous trouvez quelqu'un avec qui vous allez traverser certaines périodes de votre vie. C'est souvent ponctuel, un coaching. C'est à voir avec une reconversion professionnelle, une sortie d'un divorce, l'accompagnement d'un enfant qui a des problèmes scolaires, puisque maintenant les enfants ont des coachs aussi. Et c'est vraiment un accompagnement au changement. Alors que la psychologie, c'est quand même du soin. Enfin, je pense qu'aller voir un psychothérapeute, c'est de l'ordre du soin, ou un psychanalyste, ou un psychiatre. C'est quelqu'un qui vous aide à vous débloquer sur certains points, et à vous aider à comprendre ce qui vous entrave profondément depuis longtemps et à pouvoir vous en libérer.
Ok. Des autres articles dans ce livre a pour titre « Ce que nous admirons nous stimule ». Alors moi je me suis posé la question face à la jeunesse aujourd'hui qui admire passionnément les influenceurs qui leur proposent beaucoup des produits et juste une image. Comment vous positionnez cet avis que vous aviez sur le fait que ce que nous admirons nous stimule? Parce que l'admiration aujourd'hui, elle n'est plus portée à des grands auteurs, à des grands comédiens, à des personnalités qui jouent sur leur image. Voilà. Donc je ne sais pas où se continue ou dure la stimulation dans ce rapport.
C'est-à-dire que dans ce papier auquel vous faites allusion, je parlais des rôles modèles. C'est un terme américain, role models. C'est qui dit qu'on a besoin, et l'homme apprend par imitation, on a besoin de phares, on a besoin de personnalités qui nous inspirent, qui nous éveillent, qui nous donnent envie de ce qu'ils ont. Alors, moi j'ai plutôt parlé dans mes papiers de Mandela, de Frida Kahlo pour la créativité. Je pense qu'on a tous comme ça un panthéon de gens qui nous font avancer, qui nous donnent envie de ce qu'ils ont. Et c'est très important d'ailleurs parce qu'il paraît qu'on ne peut reconnaître chez les autres que les qualités qu'on a soi-même en germe. C'est-à-dire si vous aimez, la sauvagerie de telle chanteuse rock, eh bien c'est sans doute parce que vous avez ça en vous et que vous ne l'avez jamais développé, et voilà. Alors, les influenceurs, c'est totalement différent. Je crois, j'en connais peu, hein, mais d'après ce que j'ai compris, les jeunes sont émoustillés par la réussite exponentielle de ces personnes qui ont des followers. Hein, leur talent se mesure aux followers qu'ils ont. Ils sont comme des marques. Hein, si vous êtes une bonne marque, vous avez beaucoup de consommateurs. Ben, ces personnes, elles ont parfois 100 000, 200 000 personnes qui les suivent. Mais ce n'est pas forcément pour leur talent, puisque d'ailleurs, les influenceurs, leur particularité, c'est de parler des produits. Hein. Donc, ce n'est pas spécialement qu'ils aient des talents, c'est qu'ils jugent, ils s'estiment experts en beauté, en nourriture, etc. Mais les jeunes veulent leurs followers, les jeunes veulent leur quête de reconnaissance, pris dans une quête de reconnaissance attisée par les réseaux sociaux, violemment enflammée par les réseaux sociaux, ils veulent ça. Ils ne veulent pas le courage de Mandela, ils ne veulent pas la résilience de tel ou tel autre, ils veulent des followers. Donc on n'est pas dans la même cour, je crois que c'est très différent. Et alors, si vous avez un jeune qui est complètement dingue d'un influenceur, il faut lui demander quelles sont les qualités chez cet influenceur que tu as envie de développer en toi. C'est quoi? C'est la persévérance, le culot, pour revenir à des valeurs. Parce que les rôles modèles, ça marche quand vous arrivez à comprendre quelle valeur anime ces personnes et vous inspire.
Autre thème, parce que je vous avais dit on balaye pas mal de thèmes, et vous en avez un peu parlé tout à l'heure, c'est le temps. Vous parlez en fait dans un des articles du syndrome du temps. Donc je voudrais que vous nous expliquiez ce que c'est pour vous le syndrome du temps. Et comment rendre le temps plus confortable?
Alors en fait, je pense que vous avez oublié un mot, c'est le syndrome du temps qui manque.
Qui manque, oui, vous avez raison.
C'est-à-dire que beaucoup de chercheurs se rendent compte aujourd'hui que nous développons des symptômes liés au manque de temps, liés à l'accélération. Et par exemple, si vous courez toujours après le temps dans votre journée, ben, votre estime de vous-même va s'effondrer. Parce que vous n'arriverez pas à faire tout ce que vous voulez. Le manque de confiance en soi peut apparaître. Donc, vous voyez, c'est cette accélération du temps depuis 10 ans qui a amené beaucoup de chercheurs à réfléchir à comment ça nous transforme. Alors, il y a différentes clés pour pouvoir s'en sortir par rapport à ça. Le syndrome, un des symptômes les plus difficiles étant l'impulsivité, c'est-à-dire qu'à force d'être dans l'immédiateté, on ne réfléchit plus, on prend des décisions rapides. Par exemple, par rapport à ça, il faut réapprendre à différer ses décisions, à installer des sas. Il y a un thérapeute qui parle de la thérapie par l'interstice, c'est-à-dire quand vous avez fait quelque chose dans une journée, vous prenez toujours un sas après. Vous passez d'une activité à l'autre, vous prenez un interstice de recul. Alors ça peut être entre deux boulots, vous allez boire une tasse de thé, ça peut être vous allez marcher entre deux rendez-vous, tout seul 10 minutes. Mais pour lui, c'est vraiment le moyen de s'en sortir. Sinon, on est pris on est pris sur un manège qui nous entraîne et les décisions sont de plus en plus difficiles à prendre. On est de moins en moins en contact avec soi-même, etc. L'autre chose, et bien évidemment, c'est le renoncement, la capacité à ne pas tout faire, à ne pas tout choisir, à ne pas répondre, à ne pas donc renoncer, apprendre à renoncer, savoir que dans une journée, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Et même les barrer de sa liste avant même. Et puis il y a la question du présent, parce que on lit beaucoup être dans le présent, mais en fait on est bien dans le présent quand on n'oublie pas l'âge qu'on a, l'histoire qu'on a, le passé qu'on a. Et c'est un présent qui est toujours relié à notre intériorité. C'est pas juste je suis dans le présent et je regarde la lampe et je ne sais plus quel est mon nom, mais je suis happée par le réel comme ça. Non, c'est un présent qui est présence à soi, à d'où on parle, à d'où on vient, voilà. Donc il y a des clés comme ça dans deux ou trois papiers, effectivement, sur le temps. C'est un des axes sur lesquels être le plus vigilant par rapport à la santé psychique, au fond. Et on n'en parle pas toujours, mais ça provoque vraiment des symptômes d'anxiété et il faut prendre en compte ça. Son hygiène du temps, certains thérapeutes parlent de la sagesse du temps. Essayez de vraiment rester conscient de ça.
Autre sujet, on va continuer sur le temps. Vous réhabilitez aussi beaucoup dans plusieurs articles la vie des seniors. Et notamment, j'ai bien aimé un des titres où vous parlez de après 60 ans, c'est l'heure de la liberté joyeuse. Alors, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qui, pour vous, est réjouissant dans cette période de la vie?
Je crois que je suis pas la seule à le dire, hein. C'est vraiment parce que mes intervenants, il y a eu beaucoup de publications sur ce thème. Depuis 10 ans, on assiste à un nouveau regard sur le vieillissement, vraiment, avec cette idée que il y a quelqu'un qui dit c'est pas le début de la fin, c'est la fin du début. C'est-à-dire à partir de 59, 59 ans, un peu avant la retraite, tout ça, tout à coup, il y a une zone de liberté qui va arriver. D'ailleurs, j'ai vu cette semaine qu'il y a un livre qui sort qui parle des deux adolescences, l'adolescence la puberté et l'adolescence au début de la vieillesse. C'est assez intéressant, elle fait un parallèle sur ces deux périodes. C'est vrai que les grands combats ont été menés, généralement, les choix de carrière ont été faits, les enfants sont élevés, Donc il reste cette grande plage de temps où généralement on a quand même un peu plus de moyens qu'à 20 ans pour profiter de la vie. Et effectivement, beaucoup de femmes notamment que j'ai interviewées, j'ai fait des papiers sur la nouvelle liberté des femmes à 60 ans, témoignent de ce plus qui est amené par le vieillissement. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que pendant des années, on a dit, vieillir est un naufrage, enfin, je ne sens pas, c'est des meilleurs. Et là, tout à coup, on se dit, c'est maintenant, on va pouvoir vivre peut-être une, deux, trois décennies encore. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait avant, qu'on peut enfin réaliser? Et d'ailleurs, les sondages, j'avais fait ce papier parce qu'un sondage disait que 59% des Français entre 65 et 75 ans se sentaient heureux comme ils l'avaient jamais été dans leur vie. Ouais, c'est quand même... Donc, avanti, au liqueur, réfléchissons à comment faire ce qu'on n'a pas pu faire avant. Et alors ça s'accompagne d'une sagesse intérieure. Je travaille beaucoup avec Marie de Henzel, la psychologue qui travaille à garder du vivant et du neuf toujours, quel que soit l'âge qu'on a. Par exemple, apprendre toujours quelque chose de nouveau, se lancer dans des nouveaux projets, tout ça, ça participe à la plasticité du cerveau et à garder du neuf en soi.
Autre sujet qui nous concerne cette année, puisque je vous avais déjà expliqué sur le printemps, on va essayer de travailler autour du thème de l'écrit pour continuer à réfléchir, on en parlait tout à l'heure. Il y a un article que vous avez intitulé « Les livres nous soignent ». Vous parlez aussi de vous dites que cultiver peut rendre heureux. Voilà, comment vous expliquez cela ?
Bien, ça a été une des grandes joies de ces 10 dernières années, c'est que les neuroscientifiques deviennent humanistes et s'intéressent aux sciences humaines. Donc vous avez des grands noms comme Pierre Lemarquis, par exemple, qui est neurologue, qui travaille sur les effets de la beauté sur notre cerveau, ou les effets de la littérature sur notre empathie. Et tout à coup, ces sciences qui étaient un peu, mises de côté, ou alors on sait bien qu'aller dans un musée, ça fait du bien, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Et bien là, c'est étudié, c'est prouvé, et c'est encouragé. Et donc j'ai pu faire toute une série de papiers sur la bibliothérapie, les livres, comment les livres nous aident à vivre, mais c'est pas une vue de l'esprit. Si les ados se mettent dans leur chambre avec des livres et découvrent cette possibilité de lire, ils vont se transformer, ils vont s'ouvrir aux autres, ils vont apprendre des nouvelles émotions, des nouveaux sentiments, enfin voilà. Donc j'ai eu comme ça la joie de pouvoir faire toute une série de papiers sur ces nouveaux enjeux des sciences humaines. Et la culture, c'est aussi très intéressant, parce que d'un côté, on nous présente une culture à consommer, genre, un bouquin après l'autre, des choses... Et de l'autre, se cultiver, en fait, ça doit développer la capacité de penser. Quelqu'un qui se cultive, c'est pas seulement pour parler bien dans les dîners et dire j'ai eu ça, c'est qu'il va développer des synapses, il va développer des modes de relation entre des choses différentes, il va faire un lien entre Madame Bovary et un film contemporain, et il va se dire tiens, il n'y a pas les mêmes images de la femme, et moi je suis une femme, est-ce que je suis du côté de Madame Bovary ou est-ce que je suis... Et, c'est-à-dire, cette matière à penser que permet la culture, elle est inégalable. Inégalable. Et même l'info, ne peut pas constituer une culture, parce que l'info martèle à peu près les mêmes discours tout le temps, alors que quand vous lisez un roman de Philippe Roth, vous rentrez dans la pensée de quelqu'un que vous pouvez comparer avec Molière, que vous pouvez... Voilà. Donc il y a ces liens comme ça que la culture permet, et d'une richesse mais inégalée, et d'où la nécessité de bien sûr de cultiver nos jeunes générations. Alors ça peut être, ils peuvent s'intéresser aux mangas, mais si on leur parle des mangas et qu'en même temps on leur montre une estampe japonaise en leur disant « Tu vois déjà les Japonais, ils faisaient les yeux comme ça déjà au XVIe siècle, etc. » On leur donne des clés pour penser. Voilà. Et je crois que c'est une ressource de mieux-être psychique que de développer sa culture, oui.
Et je crois que la culture, ça rejoint aussi un thème qu'on a abordé tout à l'heure avec le temps. C'est que c'est aussi un moment où on prend du temps.
Oui. Étrangement, quand vous lisez un livre, j'avais un psy qui m'avait dit ça, ou je crois que c'est le Marquis, il m'a dit c'est l'activité la plus solitaire où l'on rencontre le plus de monde. C'est-à-dire, vous êtes avec votre bouquin et en fait, les personnages que vous rencontrez vont vous montrer des choix de vie, des manières de décider, de se comporter. Et c'est vraiment d'une richesse incroyable. Et on est en train... Alors peut-être parce qu'on est vraiment submergé par les produits culturels et qu'il faut faire des choix, qu'il faut apprendre à les relier entre eux, à savoir ce qui nous parle, qui nous éveille. Il y a un enjeu là pour la psychologie contemporaine de se pencher là-dessus plus. D'ailleurs, j'ai interviewé des coachs, on parlait des coachs tout à l'heure, on va en reparler, qui se servent des livres. C'est-à-dire une patiente, enfin une cliente qui vient avec un problème, je ne sais pas, avec sa fille adolescente, on va lui proposer de lire, je ne me souviens plus ce qu'elle avait dit, elle m'avait cité trois livres qui étaient en rapport avec l'adolescence et la féminité, et la cliente devait en lire un avec sa fille et discuter autour de ça. Voilà, ça peut être des supports de thérapie. d'accompagnement.
Dans un autre article, vous parlez du bonheur. Alors, on va venir sur les... Vous dites que la chasse au bonheur ne ferait pas de bien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un peu, on en parlait tout à l'heure, mais il y a un peu cette obligation au bonheur qui est notamment relayée par les militaires, ce que vous disiez. Du coup, comment vous situez par rapport à ça et à effectivement ce diktat, c'est à la fois qui est un peu critiqué, mais en même temps, comment ne pas rechercher le bonheur? C'est un peu indispensable à la vie.
Alors c'est un des mots qui est apparu depuis 10 ans en psychologie, hein. D'ailleurs il y a eu la psychologie du bonheur, c'est un mot qui vraiment est arrivé en masse sur nos tablettes, et effectivement ce qui s'avère c'est que le bonheur c'est un mot un peu totalitaire, et souvent ça recouvre argent, santé, famille, voilà, c'est un modèle. C'est un modèle un peu normé, normatif aussi. Et en réalité, le bonheur que chacun cherche, c'est son chemin à lui. Et il peut prendre des formes très différentes. Donc, on revient toujours à cette singularité que permet la psychologie. Il y a un thérapeute suisse qui s'appelle Yves Alexandre Talman qui m'a dit « Il faut que nous nous envisagions comme des intermittents du bonheur. » C'est-à-dire que nous avons des moments de bonheur dans une vie, et ça, il faut vraiment s'y accrocher, ne pas les laisser, ne pas les zapper, ne pas être méprisant envers eux. Il faut vraiment les attraper, il faut les goûter, etc. Mais il faut savoir aussi qu'ils vont passer. Et c'est donc cette notion d'un bonheur intermittent, c'est marrant parce qu'on va aussi parler des optimistes. Les optimistes savent que la vie n'est pas toujours rose, en réalité. Et bien c'est pareil, les gens qui cherchent le bonheur savent que le bonheur passera. Donc c'est plus le chemin du bonheur qui est intéressant que cet objectif totalitaire qui souvent en plus ne nous correspond pas forcément. Peut-être que le bonheur, c'est pas d'avoir une Rolex à 50 ans.
Non, mais par contre, de vouloir être heureux, ça paraît...
Mais voilà, alors c'est un état d'esprit, c'est une disposition à travailler. Hein. Les bouddhistes parlent de l'entraînement de l'esprit. Ça, par contre, j'ai fait un papier là-dessus. Cet état d'esprit d'accueillir le bonheur, d'y être présent, le fait grandir, en fait. Voilà. C'est...
Un autre terme que l'on utilise beaucoup et qui est une de nos valeurs, et je sais aussi, on en avait parlé un peu avec Laurence de Villers, qui pareil n'est pas hyper fan, c'est la bienveillance. Parce que la bienveillance aujourd'hui, elle est utilisée un peu à tort et à travers. Vous, qu'est-ce que vous en parlez aussi dans un de vos articles, vous dites la bienveillance a donc tout d'un pari sur l'avenir. Comment vous arrivez à cette conclusion?
Oui, là, vous résumez tout le papier. C'est la chute, alors. Par rapport à la bienveillance, moi, j'avais une attitude un peu méfiante, parce que, pour moi, la bienveillance, c'est quelque chose de spontané. C'est pas un muscle qu'on travaille. Donc, vous n'allez pas dans un cours où on dit, il faut que tu développes ta bienveillance, ou alors, ça devient effrayant, quoi. En revanche... Dire à la personne que la bienveillance, elle naît de soi, pour soi, et elle est un pari sur l'avenir, c'est-à-dire que vous décidez de penser du bien d'une personne, vous décidez que cette personne vous veut du bien, vous pariez sur l'avenir, voilà. C'est ça la bienveillance, c'est aider en se disant je vais faire mon maximum, et puis j'espère que ça se passera bien, et puis qu'effectivement cette personne restera mon ami, etc. Mais c'est un pari sur l'avenir. Rien ne vous garantit. Il y a un côté, soyez bienveillant, comme si c'était quelque chose de définitif et de définitoire de l'autre. Non, l'autre, il peut être bien intentionné aussi.
Bien sûr. C'est aussi une façon d'aborder quand même la relation à l'autre en y allant plutôt avec confiance et avec intérêt.
Oui, et c'est nécessaire en France parce que, vous le savez, le jugement est vraiment une capacité qu'on a qui vient des Lumières, qui s'appelait les critiques à l'époque, et l'esprit critique, qui est vraiment quelque chose d'assez modéré, et ça a pris des proportions en France qui ressemblent quand même à un jugement, voire à une intolérance systématique sur l'autre. Et je pense qu'à l'heure des réseaux sociaux, c'est pas pour rien qu'on parle de bienveillance. C'est parce qu'on se rend compte que là, on est dépassé par une intolérance qui est vraiment cruelle, qui est destructrice. Donc, évidemment, parlons de bienveillance. Mais cette idée qu'on pourrait l'enseigner, c'est... Voilà, je sais pas. Après, c'est un autre débat.
On va finir sur l'optimisme. Enfin, après, je passerai la parole à ceux qui souhaiteront poser des questions. Donc, il y a un de vos articles qui s'appelle « Il y a une manière optimiste de penser ». On est totalement d'accord avec ça. D'ailleurs, on retrouve dans cet article, on en parlait tout à l'heure, pas mal de personnes qui nous accompagnent au printemps et qui sont à la Ligue des optimistes de France. Il y a Gabillier, il y a Yves de Montbron, enfin voilà. En quoi elle mérite toute... vous dites que c'est une ressource qui mérite toute notre attention, l'optimisme. En quoi donc cette ressource mérite toute notre attention ?
C'est un peu ce que je disais par rapport à la bienveillance, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une société qui est plutôt terriblement pessimiste. Anxieuse, qui voit beaucoup le négatif, qui a du mal à parler du positif, qui s'en moque. Surtout dans les médias, c'est en train de changer un petit peu. Mais oui, c'est une ressource très précieuse. C'est là que la connaissance de soi est importante. Observer ses pensées, voir un peu comment on est dirigé systématiquement vers ce qui est négatif ou vers ce qui est une issue possible. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce papier, c'est que j'ai découvert que les optimistes ne sont pas du tout des gens qui voient la vie en rose, avec toujours les mêmes lunettes, en rose. Ce sont au contraire des gens qui sont conscients de la fragilité des choses et qui donc sont toujours dans l'action, se disent toujours « qu'est-ce que je peux faire ?» C'est ça être optimiste, c'est « qu'est-ce que je peux faire dans cette situation ?» Même si... Alors, comme je vous l'ai dit, enfin, on va revenir là-dessus, il y a certaines situations, malheureusement, qui ne permettent plus d'être optimiste. Et notamment en rapport avec la santé, il faut quand même le dire. Mais pour le reste, il y a toujours des solutions. Et l'optimiste va toujours être en mode potentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire ? Bon, ben voilà, il s'est passé ça, je ne le dénie pas, mais quelle est ma marge de manœuvre ? Quel est encore l'acte que je peux poser pour avancer ? Quelle est la chose incroyable qui peut se passer ? Voilà, c'est ouvrir au potentiel.
Ça, on est tout à fait d'accord. L'optimisme, c'est vraiment avant tout être actif, en fait.
Voilà.
Et pas se laisser emporter et rester inactif dès que ça va pas bien. En fait.
C'est
je pense que c'est effectivement en cela que c'est une ressource. C'est juste que. Enfin, Thierry Sausset, donc, qui est à l'initiative, dit toujours que c'est au moment où tout va mal qu'il faut être optimiste. C'est pas quand tout va bien.
Parce que
là, ça n'a aucun intérêt. Merci beaucoup, Pascal. Je vais donc passer le micro si vous avez des questions complémentaires à poser.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup. 10 ans au Figaro, sans chronique, c'est quoi le futur, les futurs articles, les futures pistes de la psychologie de demain ? Qu'est-ce qui émerge maintenant ?
Je pense que vraiment, on va passer à une psychologie de la relation. Parce qu'il faut lutter contre ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Enfin, je présume que les psys sont tous en train de réfléchir à comment rester humain dans un système où quand même la machine prend le dessus. Il va y avoir en plus l'intelligence artificielle. Donc à mon avis, ça va être un des prochains enjeux. Survivre aux réseaux sociaux, avoir des relations authentiques. On voit émerger plein de sujets sur la conversation, le fait que vraiment c'est important de converser avec les autres, des papiers sur l'amitié authentique. Je pense que ça va être un domaine de recherche énorme, le fameux vivre ensemble, devenant massivement important. C'est vrai qu'on est passé par toutes ces années de développement personnel où la personne s'interrogeait sur ses comportements, ses motivations, ses empêchements. Mais là, il y a des problèmes collectifs qui arrivent.
Et puis cette recherche personnelle n'a pas grand intérêt si elle n'est pas aussi au service du lien avec les autres.
Tout à fait.
Si on est bien avec soi, seul dans sa chambre.
Voilà, tout à fait. Donc c'est l'évolution et aussi cette notion d'impact sur le monde, avec toutes les questions de qu'est-ce qui donne du sens à ma vie et aussi à ma mission dans ce monde. Voilà, c'est les deux aspects qui, à mon avis, vont émerger, oui, beaucoup.
L'ouverture, quoi.
L'ouverture relationnelle et au collectif, quoi.
Bonsoir. Vous avez eu la gentillesse de nous faire part aussi de votre expérience personnelle, de faire une psychothérapie. Quel regard avez-vous sur vos propres écrits? Les auriez-vous écrits de la même manière, si tant est que ce soit possible de répondre à cette question, si vous aviez été juste journaliste et non pas, je dirais, patiente par certains autres, sur certains aspects?
Non, je pense que j'aurais pas du tout écrit de la même manière. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, déjà, j'ai toujours aimé interviewer les psys de différentes écoles. Et j'ai toujours aimé... pour moi, c'est un des plus beaux métiers du monde. Hein. Si j'avais pas été journaliste, je pense que j'aurais été psy. Parce que je trouve qu'ils sont comme des veilleurs de l'humain. Enfin, les meilleurs d'entre eux sont comme des veilleurs de l'humain. Ils sont là, ils regardent où en sont tous ces gens qui viennent les voir. Ils mesurent les changements sociétaux, tout ça. Bon. Et j'ai toujours été très à l'écoute de ce qu'ils me racontaient sur leur lien avec leurs patients, par exemple. Et comme je sais ce qui se passe dans une séance de thérapie, je pense que j'ai pas écrit mes papiers comme un journaliste un peu extérieur qui toujours, en plus en France, puis dans le journalisme d'actualité ou société, on est toujours là pour décrire des faits extérieurs. On n'aime pas rentrer dans l'intérieur. Moi, j'adore rentrer à l'intérieur. J'adore rentrer à l'intérieur de ce qui se passe dans une séance. J'adore demander à un psy s'il a vécu des échecs, par exemple, dans sa profession, ce qu'il observe chez ses patients, quels sont les moments où il sent que ça marche, les moments... Je pense que si j'avais pas été intéressée par la thérapie de l'intérieur, j'aurais pas fait des papiers comme ça. Mais bon.
Et quand vous avez relu vos 400 papiers, est-ce que, vous êtes... Bon, parce que c'est quelque part, vous êtes relu aussi, a posteriori. Et donc, est-ce que vous vous êtes dit, tiens, là j'allais... Alors, j'exagère sans doute, mais là, j'allais pas bien, je le sens de mon papier, j'étais un peu... Et si je devais le refaire aujourd'hui, au-delà des évolutions techniques et médicales, je le referais différemment?
Je crois que ce que j'ai senti, c'est qu'au début, ben, j'étais sans doute un peu plus retenue. Quand j'ai commencé la rubrique, on est un peu dans l'expectative. C'était la première fois que le Figaro faisait des papiers psychologie. C'est un milieu très masculin. On m'avait demandé une psychologie du quotidien, très axée sur la famille, le couple, etc. Et j'avançais un peu. J'ai commencé. Bon, le premier papier que j'ai fait, c'était c'est incroyable d'ailleurs, c'est les traders accros à la spéculation financière. Vous voyez, j'étais dans un univers comme ça. Et ils ont adoré, hein, au Figaro. Pourtant, bon, voilà, c'était quand même un thème qui pouvait les gêner par rapport aux pages jaunes du magazine. Mais avec les années, je me suis de plus en plus assouplie. Et je pense que, ben, mais ça c'est l'avancée aussi en âge, maintenant j'écrirai de manière de plus en plus personnelle. Comme font les journalistes américains. C'est-à-dire qu'un journaliste américain, il vous raconte comment est le psy qu'il rencontre, qu'est-ce qu'ils font ensemble, comment est son cabinet, voilà, j'irais peut-être plus dans le personnel, dans la rencontre, mais bon.
Deux questions qui sont vraiment très très loin l'une de l'autre. La première question, c'est est-ce que vous avez à un moment donné fait le lien entre ce que la psychologie a pris à la spiritualité, cette recherche qu'on voit aujourd'hui, d'une recherche de spiritualité aussi, comment elle a nourri le travail sur la spiritualité? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question, c'est au travers des travaux des neurologues, est-ce qu'ils ont étudié ce que, je vois qu'ils ont étudié ce que peut amener la lecture, mais est-ce qu'ils ont étudié aussi ce qu'amène le visionnage d'images au travers de séries, de films et de la télévision en particulier, ou de la réalité?
Alors sur la spiritualité, bien sûr, c'est d'autant plus intéressant que dans certains grands mouvements spirituels, il y avait une recherche psychologique. Je pense à, par exemple, Arnaud Desjardins, qui est vraiment un chercheur en spiritualité. Quand vous le lisez, il vous décrit une démarche d'introspection psychologique. Donc il y avait comme ça... un lien, la religion c'est autre chose, hein, la religion avec ses dogmes, enfin ses rites, etc., n'était pas forcément proche de la psychologie, quoique il y a des grands noms qui ont fait de l'exégèse des évangiles, notamment de manière psychologique, c'est passionnant. Je pense à Simone Pacaud qui a fait une œuvre remarquable sur... une lecture psychologique de l'évangile. Françoise Dolto aussi a fait une lecture psychanalytique des évangiles. Donc il y a des liens comme ça. Effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, certains vont voir le psy comme s'ils allaient voir un maître spirituel. C'est là qu'il y a un problème. Parce que, d'ailleurs, j'ai fait un papier qui s'appelle « Les psys ne sont pas des nounous ». Il y a une tentation comme ça d'avoir toutes les réponses de l'autre, psychologue ou psychanalyste, qui est assez dangereuse. Il est possible que dans notre laïcité tellement vantée, certains, pour zapper la question de la religion ou de la foi ou de la spiritualité, aillent directement chez le psy. Maintenant, un bon psy vous laisse vivre votre vie spirituelle et ne s'en mêle pas, je pense. Un psychanalyste est capable d'accueillir les doutes spirituels d'un de ses patients sans lui dire « mais non, il ne faut pas croire ». Voilà. C'est une autre part de l'individu. C'est peut-être la dernière part, la plus intime qui reste, et il faut souhaiter qu'elle soit moins politisée pour rester ce mystère que chacun a à vivre comme il veut, finalement. Mais bon, je sais pas si j'ai répondu à votre question. Je pense, ceci dit, que au terme d'un certain travail psychologique, on rencontre la question de la spiritualité. C'est-à-dire que la psychologie vous emmène jusqu'à un certain point de libération, de la famille, par exemple, de votre histoire, du déterminisme social. Et puis, une fois qu'on a traversé tout ça, qu'on a revu son histoire, qu'on a nettoyé, qu'on a, en gros, amélioré certaines choses, il va se poser la grande question. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je peux transmettre? Qu'est-ce qui me porte? Quand plus rien de ce que je connaissais me porte. Et là, se pose la question de la spiritualité, que chacun vit dans son cœur et son âme. Donc ça, c'était la première question. Alors la deuxième sur les... Oui,
si je peux juste...
Oui.
ce que je trouverais intéressant de votre position de journaliste, c'est justement de faire ce lien entre ce que aujourd'hui, toutes les découvertes de la psychologie, et très souvent on voit que c'était déjà présent dans les grandes traditions spirituelles.
Mais
tout ça était là. Ce n'était pas dit de cette manière-là, mais tout ça était là. Et de montrer ces liens-là permet effectivement de se réapproprier ce terreau, cette nourriture qui appartient de toutes les traditions, hein. Je ne suis pas dans une tradition, mais je ne parle pas de religion,
tout à fait.
Et qui peut amener plus facilement les gens à faire ce pas après la psychologie, d'aller plus loin vers la spiritualité.
C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'un des derniers papiers que j'ai fait, là, c'est sur le lâcher-prise. Le lâcher-prise, qui est vraiment un thème des grandes spiritualités, puisqu'on le retrouve dans le zen, on le retrouve aussi dans le yoga, on le retrouve enfin vraiment dans la pensée hindouiste, on retrouve cette notion de lâcher-prise interroge aujourd'hui les chercheurs médicaux, neuroscientifiques. C'est-à-dire qu'ils cherchent à comprendre qu'est-ce que c'est qu'une personne qui lâche prise, qu'est-ce qui se passe dans son corps, dans son cerveau, etc. Donc vous voyez, on est bien dans le cas où ils travaillent sur une notion spirituelle du point de vue scientifique. De même, la prière. On s'est rendu compte que la prière activer certaines zones du cerveau, tout ça s'est rendu possible grâce aux images IRM. Et donc on sait maintenant, ça a été étudié dans les cas d'abstinence à l'alcool auprès des alcooliques anonymes. Vous savez que les alcooliques anonymes prient pour ne pas rechuter. Eh bien, il y a des expériences qui ont été faites. On a demandé à des personnes de prier quand elles avaient envie de consommer de l'alcool, à d'autres non. Et ils ont observé les images IRM des personnes qui priaient, les zones du cerveau qui s'activaient permettaient de comprendre qu'ils n'allaient pas reboire, parce que c'était des zones qui étaient engagées dans l'envie de consommer. Donc les liens sont faits. Les liens sont faits entre des pratiques spirituelles et des recherches neurologiques. Mais vous savez, c'est pareil avec la psychologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous lisez des études, on est tout fiers de vous dire, les enfants qui ont confiance en eux sourient davantage que les enfants qui n'ont pas confiance en eux. Ben oui, ça paraît d'une évidence, les cliniciens l'ont vu. Carl Rogers ou Françoise Dolto, ils ont vu que les enfants qui souriaient davantage dans leur cabinet avaient davantage confiance en eux. Ça paraît tellement évident. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est scientifiquement prouvé. On va dire, il y a un label scientifiquement prouvé. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors les images, oui, comme je le disais, le marquis travaille notamment sur les tableaux, sur comment la contemplation d'œuvres d'art modifie le cerveau. L'élargit. Moi j'adore, c'est un chercheur formidable. Par exemple, il vous dit, quand vous lisez de la poésie, vous voyez le mot océan, et bien le cerveau, il est au bord de la mer. Parce que si vous dites océan, le cerveau, il se met en position de sentir l'iode, etc. Et en plus, vous devenez ami avec le poète qui a écrit océan. Parce que vous ressentez comme lui au moment où il a écrit. Vous voyez, c'est des liens comme ça qui sont faits sur l'empathie et les pouvoirs de la contemplation.
Il y a beaucoup plus de femmes qui suivent des psychanalystes, des psychothérapies, qui achètent des magazines de développement personnel ou de livres de développement personnel. Comment tu l'expliquerais ?
Elles ont du boulot. Elles ont à retrouver justement ce que je disais au début, l'estime d'elles-mêmes, le regard sur elles-mêmes, revenir à elles. La femme étant naturellement, entre guillemets, culturellement élevée, et puis parce qu'avec cette maternité qui la prend, elle est tournée vers l'autre, elle est la fameuse charge mentale dont on parle des femmes qui s'occupent des autres, fait qu'elles doivent compenser certainement avec des recherches sur elles-mêmes. Enfin, la libération des femmes à laquelle on assiste, persiste petit à petit encore aujourd'hui, me semble liée à la vulgarisation de la psychologie aussi. Elles ont, ça y est, elles savent que il faut regarder ce qui se passe en elles quand elles tombent toujours sur un partenaire destructeur. Elles savent que quand elles ont une relation trop fusionnelle avec un enfant, elles vont payer à l'adolescence. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui passent à travers nous, les journalistes, les auteurs, les psys qui s'expriment dans les médias, qui ont transformé les femmes, je pense. Et elles en ont besoin. Parce que... Bon, elles étaient plutôt élevées à ne pas penser à elles.
Je me demandais aussi si toutes les thérapies passent par la parole et si nous n'étions pas, nous, plus, on va dire, analytiques et auditives et sensibles à la parole et déjà, entre nous, femmes, être capables de parler, de faire des libres associations, etc. Et peut-être, alors quand on fait des généralités, bien évidemment, il y a toujours des exceptions, et peut-être les hommes étant plus synthétiques, s'il existait des thérapies par l'image, peut-être qu'il y aurait plus d'hommes qui s'y colleraient.
C'est une... Peut-être, on parle des mouvements,
c'est vrai
que les femmes sont naturellement, de toute façon on le sait bien, le fait de parler à une copine quand on a un problème, ou... Naturellement, on va vers la parole et vers le lien. Donc, on est mieux armé de ce côté-là que les hommes, oui.
Vous avez d'autres questions ? Merci beaucoup, Pascal.
Merci à vous d'être venu. Merci pour votre écoute.